enjoy your place.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse Gueule.
Kia ora, good evening, bonsoir, vous êtes sur la radio, pas la musique, mais si on fait de la musique aussi, la radio francophone et francophile d'Auckland, 104.6 FM, Planète FM, c'est Amuse-Gueule, dimanche soir, il est 6h, voilà, on commence. Bonsoir, bonsoir, Séverine avec nous.
Bonsoir David.
Elisabeth qui nous rejoint. Merci, deuxième fois d'affilée en deux semaines. Merci Elisabeth à la technique.
Pas de problème, bonsoir.
Et c'est David au micro. Petite annonce, on a une annonce de Takapuna, c'est un French club de... C'était sur notre page Facebook, donc on leur fait un coucou. Il y a Claire qui m'a demandé et une autre jeune femme. Je suis en train de chercher les messages. Attendez. Mais je ne trouve pas. C'est bête, hein. C'est dommage quand on.
C'est toujours quand on cherche.
Ça va se passer en juillet. Ça va être à Takapuna. Je crois que c'est grâce aussi au restaurant, café-restaurant. Ça s'appelle Voilà. C'est pas grave. Je recherche mes messages sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur Amuse-Gueule NZ, le Facebook. Et je regarde. Et ben, je trouve plus. Si, poste. Non, c'est pas poste. Comment on dit message en français?
Message.
Oui, mais chez les Anglais, chez les Français. Zut, je ne sais plus.
Tu te rappelles de quoi il s'agissait?
Oui, on a été contacté par Claire et par une autre jeune femme. Claire fait partie de ce inbox.
La messagerie.
Alors Karina qui fait partie de My French. Ils vont faire une My French Comedy Night à 6h30 le samedi 20 juillet. Ce sera à Takapuna au Killarney Park au French Rendez-vous. C'est un café-restaurant là. Mmh. Alors il faut réserver. RSVP, c'est le 09 487 00 009. Je répète, 09 487 00 009. Et donc ce qu'ils font, c'est $20 l'entrée avec une boisson, et il y aura des tapas, vous pourrez acheter
la
consommation sur place, puisque le French Rendez-vous, c'est un café sur le lac à Takapuna, si vous connaissez.
Ah
le
oui
lac.
Oui, je vois très bien.
Donc Karina et Claire m'ont contacté et donc elles ont monté un petit club de comédie en fait, et donc ce sera leur premier spectacle dans ce café français, The French Rendezvous. Claire travaille, elle possède, son mari et elle possède le café. Et Karina fait partie de la troupe. Voilà. Donc c'est French Comedy Night.
C'est un très joli endroit. En fait,
c'est sympa.
Hein. C'est à côté de la Pump House, faut descendre.
Oui, c'est ça.
Et à côté, on a ce café superbe avec, comme tu disais, une vue. Rien que pour l'endroit, il faut y aller.
C'est chouette. En journée, il y a tous les canards, les cygnes, tout ça, c'est sympa.
C'est bien d'y aller avec les enfants. C'est le rendez-vous des mamans et des petits aussi.
Exactement. Et puis, c'est un coin sympa puisque le petit théâtre juste à côté aussi est très, très bien.
J'y allais quand les filles étaient jeunes.
Voilà. Donc on vous y invite. Et ils m'ont dit que le spectacle, c'est franco-anglais. Comme vous vous rappelez peut-être de nos fêtes de 14 juillet et des fêtes musicales, on avait des petits Français et des Belges qui faisaient, et un Kiwi, Robbie, qui faisait nos animations de l'impro. C'est un peu le même, c'est un peu l'impro aussi.
D'accord.
Et pareil, on faisait français-anglais à l'époque, il y a 5-6 ans maintenant. Elisabeth
s'en souvient
aussi. Voilà, House of Rugby.
Tu rappelles la date?
La date, c'est le 20 juillet, donc c'est 6h30 du soir, samedi 20 juillet à 6h30, My French Comedy Night, à Takapuna au French Rendez-vous. Voilà, et donc appelez-les.
Merci David.
Merci. Donc c'était l'annonce. Toujours sur Facebook, le French Festival Renault, machin, c'est toujours.
11, 12, 13 juillet.
Il n'y a pas d'autres annonces, les filles?
Je sache, mais il y a pas mal de choses qui se passent. Ah oui, on commence demain Free Plastic July. Donc, et puis il y a aussi des gens qui commencent le Dry July. Donc, il y a deux choses. ils ne boivent pas pendant le mois de juillet, pas d'alcool. Et surtout, on arrête de donner des sacs en plastique à usage unique. Maintenant, normalement, dans tous les supermarchés, les commerces, les gens doivent jouer le jeu, au moins pendant le mois de juillet, mais c'est devient, y a même une loi qui passe.
Oui, la loi est passée quand même.
Voilà. Donc,
c'est officiel.
On va voir ce qui se passe demain, mais moi, je serais curieuse de voir, est-ce que vraiment on n'en trouve plus de ces sacs?
Fruits et légumes, j'en ai encore vu cette semaine. Fruits et légumes.
Pensez à amener vos sacs, en tout cas.
Ouais, mais il y a des, chez le mien, à Hobsonville, ils ont mis les sacs en papier il y a à peine 2 semaines, au lieu des sacs plastiques pour les fruits et légumes.
Ce qui serait mieux, c'est que les gens amènent leurs propres sacs.
En fait, oui, faut passer du panier directement à la voiture. Enfin, voilà.
Exactement.
Bonne chance à tout le monde. Faites vos courses en papier ou avec vos sacs. Il y a Blandine qui va nous rejoindre pour parler de la condition féminine. Elle est à Paris, donc c'est du live à Paris en direct, donc en français, en
oui,
bon français. En direct,
hein.
Merci Blandine. On va t'appeler juste après Sardou. Elle a demandé à avoir Michel Sardou être une femme. Et moi, je parlerai d'un livre qui s'appelle Ce qui me reste, un livre très triste, mais ça arrive des fois, c'est bien à lire. Et puis Séverine, tu veux parler de Pia, hein, c'est ça?
Moi, j'aimerais bien parler un tout petit peu de Matariki et je parlerai aussi de ce que j'ai fait aujourd'hui, rappeler aux gens que la belle nature est à côté de... À Auckland, en 45 minutes, on est dans une nature vierge, avec une énergie belle et des choses qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs.
D'accord.
Donc oui, j'aimerais parler de ça un petit peu.
Cool. Donc on va rejoindre Blandine en même temps qu'on passe Être une femme de Michel Sardou. C'est parti.
Dans
un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PD géant bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des camels au planton. Être un major de promotion, parler 6 langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée ici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jartel et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire border la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte réal, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moins Colombie de Carlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être
attraper des géants bas noirs, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux grosses griffes, femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique et femme chirurgien esthétique, être un major de promotion, parler si langue, ça tue marron, championne du monde des culturistes, aimer si si impératrice, femme et gardien de la paix, chauffeur de car à chance près, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonner jusqu'au port de Chartres et au steward pour les défaits, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France.
Voilà, voilà, c'était Monsieur Michel Sardou. Être une femme, que bizarrement dans le studio, on a tous dit non, non, la chanson, c'est pas être une femme, c'est femme des années 80. Mais non, c'est parce qu'elle est tellement typée, cette chanson, que tout le monde croit que le titre, c'est femme des années 80. Pas du tout, c'est être une femme. Voilà, on va passer Blandine, à Blandine hein, qui est en direct de Paris. Blandine. Bonsoir Blandine.
Oui, je vous entends. Bonsoir.
On t'entend Béatrice. Aussi,
oui, oui.
On t'a dans le casque.
Tu es dans la radio.
Tu es à la radio.
Bon, super.
Bon matin.
Bonjour,
pour toi,
ouais.
Très tôt.
Oui, bon matin, ouais.
Et puis nous...
Ça va, on a 10 heures là, donc c'est tout à fait...
C'est comestible.
Ça va, c'est 8 heures du mat, ça va.
Et donc, ouais, tu voulais parler de ton séjour. Ça fait 6 mois, 7 mois que tu es en France maintenant?
Oui, 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 ouais. Ça fait 7 mois que je suis en France. Ça touche à sa fin. Mm-hmm. Et justement, je voulais qu'on mette femme des années 80 parce que je suis allée, j'ai emmené ma... Il fait super chaud à Paris en ce moment.
Canicule,
on a
déjà.
Une bonne petite canicule. C'est assez marrant de voir les gens dans les rues. Ils sont tous à moitié déshabillés. Il y a des filles qui, j'ai cru qu'elle était en maillot de bain, une fille qui traversait la rue tellement elle avait un petit short et un petit haut. Donc les hommes sont chemise ouverte. Enfin, c'est du délire. J'ai jamais vu Paris dans cet état-là, quoi. C'est assez drôle à voir. Et du coup, j'ai emmené les enfants à l'Aqua Boulevard et j'ai expliqué à Siane, à ma fille, tout le monde avait des hauts de maillot de bain. Et je dis, putain, moi, dans les années 80, on faisait tout tomber le soutien-gorge. Quoi. Oui. On n'avait pas haut de maillot de bain. Et je lui ai dit, je suis une femme des années 80. Et ça peut dépenser justement à Sardou avec son fameux être une femme et ce refrain entêtant.
Oui, oui.
et donc, justement, je me suis dit, c'est vraiment étonnant parce que quand j'ai eu une expérience avec mes cousines, on était sur la plage et c'était il y a 2 ans de ça, on était toutes ensemble et on a tout enlevé notre haut de maillot de bain et nos enfants se sont jetés sur nous en disant, vous pouvez pas faire ça.
Oui.
Donc, on les a envoyés balader en disant, voilà, nous sommes des femmes des années 80 jusqu'au bout des seins. Et donc là, j'étais toute seule à la quoi boulevard et j'ai pas osé toute seule parce que ouais, oui, et c'est très très bizarre parce qu'en fait, on sent qu'il y a un côté très prude qu'on n'avait pas du tout nous à notre époque et à côté de ça, on sent un changement dans les mentalités des jeunes femmes qui me ravit. Je suis super contente de voir ça, c'est-à-dire qu'elles sont, alors c'est une vision parisienne, je sais pas ce qu'il en est en dehors de Paris, parfois c'est un petit peu différent, mais tu pourrais nous dire, toi, Séverine, comme tu as passé un moment aussi dans le sud, mais la génération qui arrive, elles tiennent sur leurs jambes, mais sérieusement, c'est-à-dire que je crois que les hommes ont intérêt à bien se tenir, et on le voit dans plein de petites choses, quand on parle avec elles, on le voit dans leur attitude, elles savent qui elles savent quels sont leurs droits, surtout, chose que je pense notre génération et celle d'avant, elles ne savaient pas forcément, enfin, celle d'avant, on luttait pour, et nous,
On n'en avait pas du tout conscience.
Ouais. Parce qu'on n'était plus dans le mouvement politique des femmes de la génération d'avant. Et en même temps, on a quand même, c'est assez étonnant. Je vois toutes mes copines, donc, qui ont mon âge, qui ont des filles qui, la plupart, commencent à être des jeunes femmes, hein, qui sont toutes adolescentes et elles sont toutes émerveillées, en fait, par leurs filles, par leur force de caractère. C'est des petits détails tout bêtes. Je parlais avec une amie hier soir, elle me dit, sa fille, par exemple, elle veut pas se raser les jambes. Elle dit, je vois pas pourquoi je me raserais les jambes. Un truc complètement hallucinant. Pour notre génération, quoi, en fait. Et donc, elles sont... et dans le métro, j'ai assisté à plusieurs scènes, et notamment des hommes qui proposent des sièges aux femmes.
Mm-hmm.
gentiment ou agressivement. Il y a une petite jeune qui était, on sentait que c'était une, elle a regardé le mec d'un air de dire, mais pour qui tu me prends, vas-y, reste assis. Et puis, il y a une autre jeune femme, il lui a dit, voulez-vous asseoir? Elle a dit, non, non, merci. Il lui a dit, vous êtes sûre? Elle a dit, non, non, merci. Et il s'est assis. Et elle s'est assise par la suite quand une place s'est libérée, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est des tas de petites choses comme ça. Je suis allée à une soirée aussi, on était des gens de toutes les générations. Et on voyait les groupes de jeunes femmes qui ont 20 ans. Elles sont bien dans leur peau et
en fait tu les sens plus fortes.
Je les sens beaucoup plus fortes, ouais. Et surtout pas du tout
affirmées,
rentrant pas du tout, ouais. Ouais, et puis rentrant pas du tout dans
elles n'ont pas de complexe, de
domination acceptée en fait, parce que ce qui s'est passé, je pense, avec notre génération, c'est qu'elles n'ont pas de complexe exactement, et surtout je pense qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites, et ce qui est pas certainement pas facile à négocier pour les hommes, hein. Ça, je crois que c'est je sais pas quelle place ils vont trouver dans cette espèce de nouvelle organisation, mais en tout cas pour les femmes, c'est moi, ça me fait super plaisir de voir ça, quoi. Et elles sont toutes, je parlais à ma nièce qui a 16 ans et elle a un petit copain qui est dans l'armée. Alors je dis, oh, bah, c'est super, dans la rue tu n'auras pas peur. Elle me dit, mais attends, je ne compte pas sur lui pour me défendre, hein. Donc en fait tout est comme ça, j'ai des vieux réflexes, ouais, à chaque fois je dis, oh merde, surtout que, mais donc voilà, ils sont ça me fait super plaisir de voir que cette génération là et je pense qu'elles vont avoir un juste milieu, c'est-à-dire que dans les années 70, il a fallu donner un gros coup, et ce qui fait que certaines enfants de ces des femmes des années 70 ont fait une espèce de retour en arrière parfois, notamment je pense aux enfants, avec une espèce d'obsession des enfants un peu trop à les couver, et surtout quand on couve les enfants, ça veut dire qu'on bouffe sa vie aussi, et du coup on pense pas à soi, et donc cette espèce de retour là à la maternité qui est, je suis loin d'être contre la maternité, hein, je suis une mère poule, mais d'en faire une priorité à tout prix plutôt qu'une partie de notre vie, je pense que ça a été assez mauvais pour notre génération, et je crois que les femmes qui arrivent là, elles sauront donner une part égale à tout. Et bon, et sans parler du fait que par rapport à la Nouvelle-Zélande, les femmes bossent beaucoup plus ici. Moi, toutes les copines comme mon âge, elles ont des carrières, des super belles carrières. Elles ont effectivement, elles sont tiraillées parce qu'elles continuent quand même à avoir pas mal de boulot à la maison, parce que les mecs quand même sont pas. Mais je pense que les mecs de la génération d'après, de toute façon, ils vont être obligés de mettre la main à la pâte. Il va pas y avoir le choix.
Bah, ça dépend des mamans. Tes copines, est-ce qu'elles ont aussi des fils et est-ce qu'elles les ont fait repasser leur chemise, faire leur lit? Parce que ça dépend un peu de la maman de 40-50 ans. Si elle a éduqué sa fille à être forte, c'est super. Mais si elle n'a pas éduqué son fils à être indépendant, ils vont pas se rencontrer. La Française va se marier avec un Néo-Zélandais ou avec un. Tu vois ce que je veux dire?
Suédois.
Ou avec un Suédois,
qui portera le bébé.
Elle va se dire, le français, il est trop lourd, il sait pas repasser ses chemises, il sait pas faire à manger, j'ai rien à gagner, quoi.
Il est trop macho.
Mais non, je crois que l'éducation des garçons, elle passe par là aussi.
D'accord.
Oui, parce que on parle beaucoup avec les enfants, et je pense que ça se transmet par là aussi. Et effectivement, ceux qui ont des garçons leur parlent vachement. J'ai parlé avec une copine de copine qui a deux fils, et elle me disait mes fils sont plus féministes que moi parfois, parce qu'elle leur parle beaucoup, elle a deux fils, donc en l'occurrence c'est là-dessus qu'elle peut agir,
T'as raison, et David a raison. Quand on parle des hommes, comment vont se comporter les hommes, où sont leurs places, ça passe vraiment par la mère, le rôle de la mère. Les hommes, d'abord, ce sont des petits garçons, et tout vient de. C'est les femmes qui forment ces générations.
Tout, le papa aide un petit peu. Mais les mamans vont dans le même sens.
Ça serait bien justement que le papa soit plus à la maison aussi pour.
C'est vrai que. En France, et c'est aussi en France où je vois pas mal d'hommes, même de notre génération, qui sont 10 fois plus actifs dans la famille. Alors qu'on se trompe pas, c'est quand même les gonzesses qui ont le plus gros du. Mais c'est pas rare d'avoir des pères qui sont super. Moi, je connais pas mal de pères qui sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants, énormément en France. Et qui sont vraiment présents, qui sont
Moi je vis pas la même chose quand je rentre en France, mes copains de 50 piges, c'est encore des gros machos. Le seul truc où ils ont un peu évolué au-dessus de la masse française, pas d'ici, ou pas, pas chez les Suédois ou les Allemands, c'est ils font la cuisine, si. Donc le papa poule fait la cuisine, mais il va pas faire la vaisselle, il va pas faire les lits, il va rien faire. Mais si les courses pour faire à manger, donc il va les faire à 8 heures du soir, puis on va manger à 11 heures.
Il pense à lui.
Mais c'est mon vécu est plutôt côté ça reste encore macho.
T'es en Normandie aussi quand tu reviens.
Paris en Normandie.
Leurs enfants, tu les trouves comment?
Parce que leurs enfants, eux, oui, les filles m'ont l'air plus. J'ai des copains qui ont filles et garçons. Tous mes copains ont filles et garçons, et j'ai l'impression que oui, leurs filles, faut pas leur en compter. Mais en même temps, j'ai l'impression que leurs fils. S'ils peuvent faire moins, ils vont faire moins aussi. J'ai l'impression que leurs fils, ils vont pouvoir en faire moins, ils feront moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont actifs, ils aiment leur maman, ils aiment leur papa, ils débarrassent la vaisselle, ils font la vaisselle, ils aident à la maison, on voit qu'ils aident. Ouais. Mais j'ai l'impression que les filles vont continuer. J'ai l'impression que les garçons, je suis pas sûr. Je me dis.
Ouais, mais en même temps, si t'as pas le choix de l'autre côté, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi, je pense, dans les années qui viennent de passer, c'est que on a commencé à mettre des mots sur les choses. Et il y a un concept tout con que je trouve essentiel, éclairant et qui, à mon avis, va changer la donne, c'est le concept de charge mentale, c'est-à-dire de dire qu'une femme. Même si un homme aide, c'est toujours la femme qui est en charge de la logistique, qui y pense, et que du coup que cette charge mentale-là l'empêche d'avoir du temps par ailleurs. Et le fait de mettre des mots sur ça, le fait de donner un nom à ça, le fait de l'énoncer, parce que moi j'avoue que c'est un truc que j'ai lu il y a pas longtemps, ouais, 45 ans, il y a 40, et ça m'a fait un choc. Je me suis dit mais c'est bien ça, le nombre de femmes qui se sont dit mais oui c'est exactement ça le problème, on n'arrivait pas à toucher du doigt, et ça veut dire que cette génération qui arrive là, les femmes,
est-ce
que c'est possible, les filles, c'est une question pour vous, est-ce que c'est vraiment possible pour une femme de pas avoir une charge mentale? Parce que moi j'appelle ça d'accord, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a une part hormonale. Si vous êtes des mamans, il y a une grosse partie de.
Quand ils grandissent, il y a encore
l'attachement.
Tu y penses, mais si tu peux te délester sur quelqu'un dont tu as. En qui tu as totalement confiance. Moi, quand elles sont chez des copines qui vont bien s'occuper d'elles, mais j'y pense plus. Je suis ravie.
Mais des copines, mais les maris.
Mais justement, si je peux avoir confiance, c'est la charge mentale. Il faut avoir il y a un élément de confiance. Tu donnes tes enfants à quelqu'un, donc il faut que les choses, pas comme tu les fais toi, mais que ça se passe bien pour les enfants, que les enfants soient bien. Dans ce cas-là.
Parce que moi, j'ai une cousine qui a mon âge, dont le mari était celui, parce que c'est elle qui bossait le plus, donc c'est son mari qui s'occupait des enfants. À la crèche, effectivement, les personnes pensent lui parler de la nourriture, elle disait, j'en sais rien, c'est mon mari qui s'en occupe. Ouais. C'est vraiment une organisation sociale. À mon avis, et la partie hormonale, ça consiste effectivement l'allaitement
les premières années.
Et encore, même les premières années, moi je vois en France, c'est incroyable quoi.
Les premiers mois.
Dès les premiers mois, de toute façon, les enfants sont à la crèche, ou à la crèche ou avec une nourrice, parce que les crèches c'est de plus en plus problématique. Donc c'est purement, à mon avis, c'est purement une organisation sociale qui date du 19e siècle d'ailleurs, puisque avant les femmes elles s'emmerdaient pas avec leurs gamins, hein. En tout cas dans les familles riches, c'était les nourrices qui s'en occupaient, donc ça a jamais été
c'était les 5%, hein. Les autres 95%, il y a pas beaucoup de nourrices.
Disons que oui, non, mais ce que je veux dire c'est que pour montrer que c'est pas une autre, si t'avais du fric, ton choix c'était pas de, tu vois ce que je veux dire,
mais l'éducation anglaise c'est pareil aussi, hein. Si t'étais en bourgeoisie en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande, t'avais une nourrice, une nounou ou ce que tu veux, ou
D'autant plus qu'il faut mettre la différence entre donner de l'attention à ton enfant et s'occuper des tâches ménagères, c'est pas la même chose. Torcher un enfant, faire la vaisselle, faire les lessives, il y a rien d'hormonal là-dedans, n'importe qui peut faire ça, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment organiser la vie des enfants, quelqu'un d'autre peut les organiser.
Je pensais le côté hormonal avec la charge mentale, c'est-à-dire penser tout le temps à Faut préparer le cartable des enfants, faut préparer machin.
On n'a pas le choix. Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment, c'est culturel. On n'a pas le choix. Et l'autre chose aussi, oui, parfois on peut se dire les mères vont être plus attentives. Un père va plutôt dire oh bah vas-y laisse tomber, il va se démerder ou autre chose. Mais je crois que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment social. Il y a des femmes qui sont complètement hystériques avec ça aussi. Mais je pense que c'est un autre problème. C'est des femmes qui ont besoin de travailler sur elles et de comprendre ce qui se passe dans leur tête, si elles utilisent leur enfant comme espèce de...
Pour résumer, Blandine, tu penses que, enfin, en ayant vécu là depuis 7 mois en France, tu vois, par rapport à toi, à nous, quand on a grandi, ces jeunes femmes qui ont 18, 20 ans sont fortes et nous réservent de belles années
sans bikini, donc elles sont tristesse pour Romain, par exemple.
Mais je pense que Romain appréciera ça malgré tout. Il aime le répondant. Elles se connaissent, elles savent qui elles sont, elles savent dans quelle société elles savent quels sont les risques qu'elles courent socialement, elles savent qui elles sont. Et je pense que c'est ça, c'est toujours la même chose. Hein, la connaissance, c'est par là qu'on se. Et donc.
Elles ont mûri.
Alors maintenant, je parle des Parisiennes dans un certain milieu. Je parle pas des enfants qui sont dans des milieux avec des pressions religieuses, etc. Ceci étant, elles grandissent dans un pays où ça se passe comme ça. Donc du coup, voilà, même si je pense qu'il y a pression religieuse, il y a aussi l'exemple de femmes à côté d'elles qui s'émancipent. Donc de toute façon, mais en tout cas, oui, je crois qu'il y a une grosse différence. Et moi, m'a enchanté de voir Sian. J'ai deux petites remarques. Je crois que je l'avais dit déjà rapidement, mais quand on est arrivé, quand ils sont arrivés à l'école française, donc Zvi a 14 ans et Sian en a 11, je vous avais dit, Zvi m'a été...
Les garçons parlent aux filles.
Dont les filles venaient lui parler de façon pas du tout agressive ni complètement nunuche, elles venaient lui parler d'égal à égal, et ça c'est un truc qui pour Zvi qui a été étonnant, c'est quand même effrayant quand on pense à la Nouvelle-Zélande. Et la deuxième chose, c'est que Sian a été, s'est transformée aussi, et ça c'est ce que je voulais, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais venir en France. Je voulais qu'elle voit que on peut être une femme, on peut avoir du pouvoir intellectuel, on peut avoir du charisme, on peut avoir, que c'est tout à fait normal d'être une femme et d'avoir ces pouvoirs-là en main. Quoi.
C'est rigolo quand même ce que tu dis, parce que tu viens d'un pays, la Nouvelle-Zélande, ça fait 20 ans qu'on a 3 femmes premières ministres, les têtes de gouvernement, mais pas que ça. La juge principale, ça fait 20 ans qu'on a 3 juges principales. La gouverneure générale, ça fait 3 femmes qu'on a aussi, donc ça fait quand même 20 à 30 ans qu'on a des positions où les femmes sont au siège suprême de tous les pouvoirs législatifs. Gouvernementaux, je sais pas.
Non, mais ça, c'est le gros paradoxe de la Nouvelle. C'est le gros paradoxe de la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que politiquement, on a des femmes qui sont à des postes importants et en plus qui les tiennent super bien. Les 50 plus grosses entreprises néo-zélandaises, un seul CEO femme.
Ah ben, en France, il y en a zéro. Tu as 10 000 CEO en France et il y a zéro femme.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à mi-temps, qui ont des salaires, les salaires plus bas, c'est vrai partout dans le monde. Mais en termes de travail, les femmes travaillent vachement à mi-temps en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Énormément. Économiquement, si tu veux, elles sont super dépendantes Écoute, ne serait-ce que dans notre entourage,
coûtant une fortune, quand on a deux enfants et voire 3, se pose sérieusement la question, est-ce que j'arrête ma carrière?
Très jeune, surtout, ça commence qu'à 3 ans, les 20 ans.
Voilà, c'est ça. Il y a une pression sociale énorme aussi. Faut voir les horaires.
Il y a une pression sociale énorme. On attend des femmes qu'elles s'occupent de leurs enfants.
Mais c'est
si
surtout, je pense
crèche,
que c'est sûr.
Regarde de traviole.
Il y a une pression sociale dans certains milieux, mais je pense que c'est vraiment un coût économique. Les gens gardent leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de les mettre à garder dans les crèches qui coûtent beaucoup trop cher.
Parce qu'en France, les crèches sont sponsorisées. Sauf qu'il n'y a plus de place dans les crèches.
Voilà, il faut s'inscrire avant d'être enceinte.
Les gens s'organisent. Il y a maintenant des nounous. Et ça s'est développé comme ça.
Qui partagent avec d'autres familles.
Voilà.
En même temps, j'ai une question pour toi. Comme tu as des copines qui ont des bonnes places managériales, si j'ai bien compris. Est-ce qu'elles sont... heureuse de à l'intérieur, parce que la France a une productivité énorme par rapport à la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que c'est pas que les femmes en Nouvelle-Zélande qui travaillent que 20 heures. Il y a beaucoup d'hommes. On n'en fout pas. On n'en fout pas une en Nouvelle-Zélande. C'est le paradis. On va acheter des noix de coco, des bananes, et on va pêcher. C'est la mentalité, quoi.
On bosse moins.
On est un peu des Iliens. On va se la couler douce. Est-ce que ces femmes ne payent pas un peu le fruit de leur labeur? Elles travaillent beaucoup à la maison, au boulot, elles ont des carrières, mais est-ce qu'elles sont quelque part, elles se diraient, si je pouvais travailler que 20
heures. Non, elles galèrent.
Non,
elles galèrent.
Elles galèrent trop.
Elles galèrent toutes, elles ont des problèmes, ça apporte des problèmes dans leur famille, parce qu'ils se retrouvent effectivement, et elles sont débordées, elles sont toutes débordées, d'autant plus qu'il y en a pas mal qui se séparent, donc ils se retrouvent avec un gros boulot, à gérer une logistique de folie, et, elles sont débordées. Elles sont débordées, et effectivement, elles ont quand même, les trois quarts du temps, c'est elles qui s'occupent de, pas toutes, mais elles s'occupent quand même de, vachement de la maison, etc., c'est toujours, avec des boulots à responsabilité, donc elles ont, je sais que là à notre âge, donc on arrive près de la cinquantaine, la plupart sont au bout du rouleau, c'est clair.
Est-ce que c'est pas pour ça que leurs filles, voyant leur mère faire quatre carrières, carrière de maman, carrière de femme, carrière d'amante, carrière de travailleuse, elles se disent peut-être qu'on va être un peu plus sérieuse et gérer mieux, peut-être qu'elles vieillissent plus jeunes.
C'est possible, le problème il vient de là, c'est ça, c'est d'avoir tout. Si c'était bien partagé avec les hommes, déjà les hommes auraient aussi. Je pense qu'en France, la question se pose pas de la même façon en France et en Nouvelle-Zélande, parce qu'en Nouvelle-Zélande, les hommes ont une pression financière qu'ils n'ont pas en France, parce qu'en France, non seulement ils n'ont pas la pression financière, mais en plus ils arrivent quand même à se décharger sur les gonzesses du travail de la maison. Quoi. Ouais. Donc ils sont assez gagnants quelque part. Mais ouais, effectivement, pour les nénettes ici, toutes mes copines, elles sont toutes au bout du rouleau. Toutes. Elles tiennent le coup, hein, parce qu'elles, par contre, elles aiment ce qu'elles font et elles se sentent bien. Mmh. Voilà. Donc elles sont bien dans leur peau, mais épuisées.
Ouais. Il faudrait que cette génération qui sache où elle en est réalise que la sobriété heureuse, c'est quelque chose qui peut peut-être leur aller. Donc, travaillez moins. Et d'abord, il faudrait aussi des égalités de salaire, qu'un salaire d'homme soit le même au même poste qu'une femme ou un homme gagne la même chose. Mais surtout, pourquoi courir après tant de matérialisme? Ils ont peut-être pas besoin de travailler autant 50 heures par semaine ou 40 heures. Le problème dans une grande ville comme Paris, ou quand même, je sais pas ce que t'en as ressenti. Est-ce que les gens sont aussi matérialistes?
J'imagine. Écoute, je saurais pas te dire.
Parce que s'ils travaillent moins, s'ils courent pas après les marques, s'ils s'habillent en seconde main, ils peuvent très très bien, une partie de leur salaire, ça passe dans des vêtements, des choses d'apparence, et ils en ont pas besoin, ça. Ils ont pas besoin de gagner cet argent-là. En plus, maintenant, les gens voyagent moins parce qu'ils savent qu'il faut pas prendre l'avion comme on prend, la bicyclette, quoi, c'est pas possible. Peut-être qu'elles vont, s'ils se réveillent, et moi c'est ce que j'espère quand je vois les jeunes qui font, comme je connais une jeune là qui a mené le mouvement de la dernière marche du climat, qui est française d'ailleurs, une petite française, née ici. Ça va peut-être changer des choses aussi, cette donne-là, j'espère.
Ouais.
Blandine, on va peut-être enchaîner sur quelque chose d'autre, parce que David a pas mal de livres à nous présenter.
C'est très intéressant, une bonne conversation et une comparaison avec ici. Est-ce que tu veux... j'ai rigolé, mais j'ai trouvé « Si j'étais un homme » de Diane Tell. Donc on va se passer remercie encore.
Pour finir.
On te souhaite une très bonne semaine à toi et une bonne fin de dimanche.
Merci Blandine. Au revoir.
Bon, bisous, au revoir.
Ciao. Alors, on va se passer Diane Tell que j'ai trouvé. « Si j'étais un homme » pour faire le contre-pied, être une femme de Monsieur Sardou. Voilà. J'ai mis le son, j'ai tout branché. C'est parti. Non, c'est Diane Tell qu'il faut que je mette, et c'est parti maintenant.
sur la plage. Où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là.
Madame Diane Tell du Québec qui nous rappelle, si elle était un homme, elle serait romantique, elle. C'est beau, non?
Ouais.
Moi, j'aime toujours cette chanson. C'est les 80, mais j'aime toujours. J'aime toujours encore. S'il n'y a pas de boîte à musique derrière qui fait boum, 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 c'est peut-être pour ça. on parle de quoi? Ah, c'est à moi que tu veux parler, Saint-Ville, ou c'est à moi?
Moi, je veux bien parler à la fin.
À la fin, d'accord.
Mais je veux dire, bon, il y a des gens qui nous écoutent, donc c'est bien. On peut faire savoir en textant. Merci, Denis, de nous
Denis,
faire
bonjour.
Savoir. Bonsoir.
Mais si Brigitte Lahaye, c'est ton. C'est ton truc, c'est vraiment les années 80, ça montre ton âge ou ce que tu regardais dans les années 80?
Ça montre son âge,
ouais,
c'est
ouais,
tout.
Ouais.
C'est qui Brigitte Lahaye?
C'est une actrice un peu dénudée des années 80.
Tout le monde la connaît normalement.
Sauf moi.
Bah, si t'es parti de France avant les années 80, tu ne connais pas. Ouais. Enfin bon, je parle d'un livre très triste.
On dérape. Hein.
Ça s'appelle... Ouais,
on dérape un petit peu. On dérape, mais maintenant on se reprend. Donc,
on se reprend,
que
un livre très triste, mais pas, pourquoi je trouve. Enfin bon, que j'aime, que j'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle « Ceux qui me restent » et c'est « Ceux » C-E-U-X pour les gens, ou pour la mémoire, ou les mémoires. Donc c'est par Damien Marie, Marie c'est son nom de famille, Damien c'est son prénom, et Laurent Bonneau, comme la bande à Bonneau. Et Laurent Bonneau il fait les dessins, Damien Marie fait le scénario.
C'est une BD, tu nous l'as dit.
Oui, c'est une BD.
BD pour adultes.
C'est chez Grand Angle, bon les teenagers peut-être peuvent lire. Peut-être lire, mais ça, mais les enfants n'ont peut-être moins, parce qu'il y a deux, trois sujets... bah pas grave mais sérieux et puis triste. Donc c'est chez Bambou, c'est Grand Angle, c'est 159 pages, c'est une histoire donc un seul tome, one shot comme ils disent les Anglais, une histoire complète. Pour moi c'est un très très beau livre, il y a des gens qui vont peut-être pas aimer. Mais d'ailleurs j'ai vu des critiques sur fnac.com, sur BDGest et sur Goodreads. Où il y a des gens qui trouvent ça pas super, enfin ou moyen. Il y a pas grand monde qui trouve ça nul ou pas bien, mais il y a des gens qui trouvent ça moyen. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que pour moi, c'est j'ai aimé comment ils ont traité 3-4 sujets en même temps qui ils sont tous tristes. Alors là, les 4 sujets sont tristes. Il y a aucun sujet qui relève le niveau, mais c'est bien fait et et ça s'engrange. Tout seul, c'est bien huilé.
Quand tu parles de quatre sujets, c'est quatre sujets au sein de la même histoire ou
c'est la même histoire, c'est une histoire.
Mm-hmm. Donc on parle de quoi ? C'est quoi tes sujets ?
C'est l'histoire d'un homme. Donc ça commence, il est assez jeune, il est.
Faut que tu parles dans le micro, sinon on t'entendra plus.
Pardon. Il a 20 ans ou il a quelque chose comme ça. Et il rencontre. Il est tout jeune, il a 14-15 ans et il va en Angleterre. C'est un petit Français qui va en Angleterre. Et il rencontre une Anglaise. Sur le quai, donc c'est quand on prenait le bateau pour aller en Angleterre, hein, pas le train sous la Manche. Et donc il tombe amoureux de cette jeune femme. Et puis donc l'histoire continue. Et après, donc il est marié avec cette jeune femme, donc c'est peut-être 10 ans plus tard. Ils ont une petite fille. Et c'est bien ficelé parce que l'engrenage de l'histoire, c'est que on découvre des choses sans tout découvrir. C'est-à-dire que on découvre que la maman de la petite fille qui s'appelle Aurélie est décédée. Donc on a vu
la. Tu nous en dis trop. Je voudrais te l'emprunter.
Donc,
hein,
donc c'est une belle tristesse. Donc c'est un jeune homme qui rencontre une Anglaise, qui se marie avec, fait un enfant et. Elle meurt presque en page 14, donc c'est déjà le pathos, mais c'est bien fait parce que on se dit ok bon pas cool, mais il est habillé, il a les roues flaquettes des années 70, donc on se pense bon, donc j'imagine que il allait en Angleterre teenager dans les années 60 ou début 70. Il ressemble un peu à Elvis ou les années 70, les roues flaquettes sur le côté, là, les pattes, pour l'enterrement de sa femme. Donc on imagine l'époque. Et puis ça valse, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, il y a une histoire de perte de sa petite fille aussi. Ouais. Une agonie. Donc ça fait un peu un choc. On dit, il vient de perdre sa femme. Elle est décédée, mais on ne sait pas de quoi. On va le savoir plus tard.
Ne le dis pas trop.
Et je ne vais pas le dire. Mais c'est triste aussi. Et puis, il y a une perte. Il y a une histoire de perte. Il perd sa fille aussi. Mais elle ne décède pas, mais il la perd.
D'accord.
Physiquement. Uh-huh. Et,
Elle disparaît.
Dans le livre. Et puis.
En fait, il est très riche, ce livre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'émotions.
Il y a quatre pertes. Il y a au moins quatre pertes dedans. Donc. Mais je trouve ça bien traité. Il y a beaucoup de silence. C'est pas un livre à texte. C'est pas la télé ici, c'est la radio. Mais d'une double page. Il pleut, donc on voit bien la pluie. C'est assez grisonné parce que les traits du dessin sont aussi. C'est du noir et blanc en fait. Où le dessinateur est aussi le coloriste. Il y a beaucoup de BD où les coloristes c'est des gens différents des dessinateurs, mais là les couleurs sont appliquées par le dessinateur. Donc ce qu'il fait, c'est vraiment du noir et blanc, ok. Il dessine au fusain, je pense, des beaux traits noirs. Les arbres sont noirs, les cheveux noirs. Même sa fille est blonde, mais la manière dont il dessine une fille blonde, c'est-à-dire qu'il fait les traits ou les courbes de la chevelure par des défilés noirs, quoi. Mmh. Donc on devine par l'absence de couleur qu'elle est blonde, mmh, parce que le trait est pas, lui il est brun parce que c'est noir partout. Enfin bon. Par contre, comme coloriage, ce qu'il a appliqué, c'est souvent une seule couleur. Donc là, sa fille, j'ai ouvert à la page 16-17, c'est l'enterrement de la maman, et sa fille porte un bonnet rouge. Donc tout est noir et blanc, bah, ou gris. Il a calqué une couleur principale vert de gris au gris vert sur toute la page, donc ça donne une ambiance, bah, il pleut, il doit faire froid,
ouais,
c'est une ambiance de cimetière, c'est pas chaleureux, mais il y a le bonnet rouge. Le bonnet rouge de fille, c'est là vraiment la seule couleur.
Une tache de couleur, effectivement.
Voilà, okay. Et plus tard, ça va être un gilet jaune et une veste jaune qui va être souvent.
Ah oui, ça revient.
Et
oui,
ça revient. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est vraiment encore du trait noir et blanc qui donne un caractère sombre, mais il y a souvent une couleur par page.
C'est sa marque de fabrique, en fait, j'ai l'impression.
J'ai l'impression, mais c'est des couleurs qui parlent.
Oui, il y a une symbolique.
Je ne vous raconte pas tout. C'est-à-dire que là, par exemple, sa fille a peut-être... elle a peut-être 30 ans maintenant. Elle est dans Paris, elle a 30 ans. Elle fume une cigarette, elle est au dehors du boulot. On est à page 66. Donc, on voit l'évolution du temps. Et à part son gilet, son t-shirt jaune.
Son soupule
jaune. Tout le reste, c'est noir et blanc. Il y a une couleur de fond grisâtre, gris-vert encore. Et il utilise d'autres couleurs de fond. Hein. Quand il est à la mer, il utilise un gris-bleu. Quand il est à la ville, c'est un gris.
Donc, ce livre, t'as l'habitude de lire des BD, toi?
Oui, moi je suis très BD, j'ai une grosse collection.
Celui-là, entre toutes les BD que tu as, pourquoi tu as choisi de nous parler plutôt de celui-là
Parce que je le trouve beau, même dans la tristesse, c'est très, très, très beau.
Et il est très riche en fait de
contexte. L'histoire est sobre, il y a pas comme je dis, il y a pas beaucoup de texte, c'est pas un livre à texte il faut quand même que je dise quelque chose, que les trois quarts du bouquin et le dos de page, ça vous dit tout, c'est le sous-titre. Le sous-titre, donc c'est l'une des quatre tristesses que j'ai nommées, c'est Voyage en Alzheimer.
Ah, c'est intéressant.
Donc ce jeune homme qu'on a vu à 16 ans draguer une jeune anglaise, en fait c'est un vieil homme. Donc l'album, c'est l'album du vieil homme qui se souvient de pas tout. Et les pertes qu'il a, ce sont pas que les pertes des gens. Il perd les gens puisqu'il perd sa femme, il perd physiquement sa fille à un moment donné. Il la perd mentalement et il la perd émotionnellement. Et je vous raconte pas l'histoire, cette histoire-là, parce que c'est entre le père et la fille, surtout quand elle est plus âgée.
Très subtil.
Il y a beaucoup de tristesse, mais c'est pas du pathos, c'est pas du roman. Oh, chérie, tu m'as quitté. Mais il y a beaucoup de
J'ai l'impression qu'il y a plein de niveaux, plein de nuances,
mais sans être chargé, ramené. Je sais pas comment il a bien ramené ça, mais ça passe tout doucement. Puis à la lecture, on se dit mais mince. Au moins trois fois dans le livre, je me suis dit ok, donc le décès de la maman, c'était ça.
T'es obligé de réfléchir.
Non, et puis ça te fait réfléchir, puis en même temps tu te dis ah. D'accord, ce qu'il a montré, c'est tellement bien fait que ce qu'il a dessiné et raconté, on ne sait que 40 pages plus tard ce que c'était vraiment.
Quand tu t'es rendu compte, tu revenais en arrière pour regarder, pour le voir d'une manière différente.
Non, t'as pas besoin, c'est juste ton cerveau, il dit ah, t'as le déclic. Mais ça arrive 3, 4, 5 fois entre Alzheimer, les pertes physiques, les pertes mentales et les pertes émotionnelles. 3-4 fois dans le livre, tu te reprends.
Est-ce que je vais pouvoir te l'emprunter, s'il te plaît?
Oui, peut-être.
Ayant eu une grand-mère que j'ai perdue, entre guillemets, enfin, tu perds quand les gens meurent, mais je l'avais perdue un peu avant, quand elle a commencé à avoir Alzheimer. J'ai vraiment eu. C'est plus la même. Il a fallu faire un deuil, un deuxième deuil.
Il y a un peu ça, et puis pour sa fille, à lui, puisque en fait, les trois quarts du reste du livre, c'est quand même le rapport fille-père. C'est compliqué. Il y a une autre histoire là-dedans et encore une histoire triste. Bon, je peux pas tout dire parce que.
De toute façon, Alzheimer, j'ai remarqué que les quand c'est bien traité, c'est super intéressant. Il y a un bon film qui a été fait avec cette actrice. C'est un film américain qui a décidé. Elle sait qu'elle a. Elle travaille en plus. Elle, c'est une romancière et elle sait qu'elle a Alzheimer. Et quand elle sera, elle veut se suicider quand elle devient une charge pour sa famille. Mais elle a oublié son plan d'action. Donc elle s'est inscrite tout ce qu'il faut, tout ce qu'elle doit faire, mais elle se rappelle plus où elle a mis le livre, où elle a mis son cahier. Donc
la liste.
C'est très difficile, mais c'est très intéressant.
Oui. Donc ça, c'est pas que sur Alzheimer, c'est bizarre parce la quatrième de couverture, qu'on a la page de fin, bizarrement dit presque trop et pas assez. En fait, le livre est pas que sur Alzheimer.
D'accord.
Ça aide à raconter l'histoire en fait, mais c'est pas
ce n'est
toute
pas que
l'histoire.
Ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, t'as remarqué la subtilité, ce qui me reste et la c'est... fin de
voilà.
Et s'efface.
T'as déjà tout compris. Donc le titre et ce que raconte Séverine, le titre se mélange à la page jaune du livre et
s'efface.
Voilà, s'efface.
Tout doucement.
Comme la mémoire ou les émotions. Et là, je suis en train de tripoter mon ordinateur pour essayer de mettre de la musique.
Tu vas nous passer une petite musique.
Ben, on va essayer. Alors, attendez, je fais ci, je fais ça. Je suis en train de meubler. Hein. Mais donc, je recommande. Je ne me rappelle pas du prix. C'est souvent marqué en France, les prix derrière.
D'ailleurs,
non,
comment tu te l'es procuré? Tu l'as acheté?
Alors, celui-là, monsieur Amazon ou Fnac, ou par ma boutique. J'ai une boutique dans ma petite ville natale. À Vernon, ça s'appelle L'île au trésor. Je ne veux pas lui faire de la pub parce qu'elle ne les inquiète pas. Mais, elle m'envoie des bouquins par carton-livre, puisque les cartons-livres, c'est pas très très cher. Ça met du temps. Hein. Si vous voulez le faire d'ici,
ça met
3 à 5 semaines pour mon carton-livre arriver. Mais bon, je commande 10 livres à la fois, donc c'est un gros carton. Et j'ai l'impression que ça vient par bateau, pas par avion. J'ai l'impression.
Ça vient assez rapidement. Mais ils le font toujours, ce.
Oui, donc.
T'es sûr?
Ils font deux choses.
Parce
en fait, ce que je viens d'apprendre, ils viennent faire.
C'est sur le
site de la Poste.
Ça coûte combien, Elisabeth?
C'est brochure. Tu vas à la Poste et tu dis c'est livre et brochure.
Livre et brochure.
Et
voilà.
C'est là, ma sœur a juste envoyé un livre à mon petit-fils. Et en fait, c'était 4,70 €. C'était un gros livre. Ouais. Ouais.
Normalement, tu as le droit jusqu'à 10 kilos de livres pour 13,70 €.
Ah. Oui, mais ils font deux choses maintenant. Donc, ce qu'ils font, c'est...
Parce que ça, je ne sais pas si ça existe encore.
Ils font le sac maintenant.
Kilos, oui.
Ils font le sac. Donc, ils font la boîte de 5 kilos.
C'est 5 kilos, alors. Okay.
Voilà. Et moi, comme je mets beaucoup plus de 5 kilos, ils m'ont dit que je pouvais faire le sac. Donc, voilà. Mais bon,
je vais me renseigner parce que ça me...
C'est
avant,
sur
j'avais
Internet.
Des colis
je
qui m'arrivaient de France et là, j'en ai plus.
Je l'ai retrouvé sur l'Internet de laposte.fr.
Oui.
Je suis en train de chercher parce que je garde.
Ça peut intéresser pas mal de francophones ou francophiles qui sont en Nouvelle-Zélande et en manque de.
Mais il faut bien demander parce que même les Français sont pas souvent au courant.
Oui, mais même à la Poste, il faut vraiment.
À la Poste, ils sont pas au courant.
Donc allez sur le site de la Poste, le site web. Et comme ça,
vous imprimez
ce que j'ai fait,
et vous montrez à votre postière.
À la postière ou la personne qui va vous envoyer les livres, maman, papa ou les enfants ou les copains ou la femme de la jeune femme qui m'envoie les BD. Voilà. Je vais passer. J'avais oublié que tu m'aimais autant. C'est de Dominique A. Je me rappelle plus ce que ça donne. Alors j'espère qu'on va tous s'aimer. Allez, c'est la musique que j'ai trouvée.
C'est parti.
C'était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais. Dans les ruelles
abandonnée. Dans l'enclos ouvert à tout vent, j'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié.
Voilà, c'était. J'avais oublié que tu m'aimais autant de Dominique A. Une petite balade. Voilà.
Et nous, on avait complètement oublié la musique.
Oui, on a oublié la musique. On discute de nos BD qu'on trouve à la bibliothèque.
Alors,
Séverine, tu nous parles.
Je veux bien vous parler de. Je veux rappeler à tout le monde que à 45 minutes en voiture d'Auckland, on a les plages de sur l'ouest de sable noir. Je suis allée aujourd'hui à Piha, à Nonspiha, et nous sommes allés, puisque c'était la marée basse en plein milieu de l'après-midi, nous sommes allés ramasser des moules sur la plage de White's Beach. Donc c'est vraiment une balade, on le fait régulièrement une fois par mois, et je me dis qu'à chaque fois que j'y vais, c'est un bol d'air, c'est une nature vierge, sauvage. On voit que de la verdure quand on passe à Nonspiha, en fait, je ne sais pas si les gens... savent bien. Quand on descend sur Piha, il y a le Lion Rock. Et quand on regarde la mer, la petite plage de gauche, ça s'appelle South Piha, où sont les sauveteurs en mer. C'est là où les gens vont se baigner entre les drapeaux. Et la grande plage qui va jusqu'à une prochaine petite colline, ça s'appelle North Piha. Donc South Piha, la plus petite plage, et tout le reste, vous passez le Lion Rock en voiture et vous continuez à longer le bord de mer. Ça prend un moment. Hein. Et tout au bout, vous avez un parking, on se gare là, on continue après à pied à longer la plage 5 minutes et on trouve le long de la falaise, enfin le long de la, dans la quand le bush commence, on trouve un sentier et là on monte jusqu'à en 10 minutes, on est monté à un point de vue. Donc on peut aller sur le point de vue, ce que font beaucoup de gens, et regarder la vue, c'est très joli, ou continuer à escalader jusqu'à un chemin qui s'appelle Rose Track. En fait, on arrive sur sous la route de Anafata, et là on redescend de l'autre côté de la colline sur une plage qui est la plage après Nonspiha, donc ça s'appelle White Beach, et celle d'après c'est Anafata. Donc entre Anafata et Piha, on a White Beach. White Beach, c'est une petite plage en U. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle White Beach. J'ai longtemps cru que, comme elle était très agitée, ou plus agitée que Piha, avec l'écume qui rendait tout blanc, c'était pour ça qu'on l'avait appelée comme ça. Mais je crois que c'est plutôt peut-être, le nom de quelqu'un.
J'allais dire que les plages de l'ouest d'Auckland, parce que comme j'étais faisais partie de la bibliothèque de l'ouest, pendant longtemps, j'ai appris que c'est beaucoup de familles. Hein. Bessel, c'était une famille.
Je pense que c'est le nom de quelqu'un.
Donc, surtout les mots anglais, je veux dire. Voilà. Les noms maoris, c'est plus d'habitude, c'est des histoires maoris. Mais les noms Bessel, etc., il y a sûrement une famille.
Oui, j'ai tout à fait pensé à ça.
Que Langholm, c'est une famille aussi, c'est le Lang. Et j'ai rencontré une descendante il y a à peine deux semaines.
Et moi, là, on prend un petit chemin qui s'appelle le Rose Track. Et je pensais que Rose, c'était... J'ai cherché, j'ai vu que c'était pas ça. Je pensais que c'était la sœur de Edmund Hillary parce que... sur ce chemin était la famille. Il y a un petit batch qui appartenait à la famille d'Edmund Hillary. Et j'ai rencontré il y a quelques années une dame qui est la sœur d'Edmund Hillary dans ses bien à 85 ans ou plus, qui descendaient ce chemin très escarpé en robe, en chaussures normales et petits bérets, et très chic, alors que nous, on était dans nos jogging et les chaussures de marche. Et alors, on l'a laissé passer parce qu'elle était avec sa fille et on a dit, c'est qui cette dame? Et elle nous a dit, oh, mais j'ai appris à marcher sur ces chemins, savez-vous? Ah, très bien. Et quelquelqu'un m'a dit, c'est la sœur d'Ed Pendilary. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être en son honneur, parce que donc, elle allait à son badge. Elle allait, ils ont gardé ce badge familial. Et donc, à chaque fois que je prends ce petit sentier, je songe à elle et à lui aussi. Et quand on arrive sur la plage de White Beach, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, les gens font pas... D'abord,
c'est un peu loin, après.
Oui, puis on ne connaît pas le chemin, on ne sait pas trop où aller, on n'est pas très sûr, mais c'est très chouette. Et on arrive, en descendant particulièrement, on est au milieu des fantails, des flax, des pohutakawa, des cabbage trees. Il n'y a pas une maison, elles sont toutes en haut, on les voit à peine, mais on est entouré de nature vierge. J'ai trouvé que, je me suis dit, il faut vraiment pas s'en priver, parce que où est-ce que tu as, à 40 minutes, un endroit qui n'a jamais été touché, qui est aussi beau, aussi pur, magnifique. C'est une ressource, c'est vraiment un endroit qui fait du bien. Et quand c'est marée basse, on peut prendre jusqu'à 25 moules par personne. On était 4. On a une petite copine de Margot.
Donc ça nous fait 100 moules.
Et là, elles sont en train de...
Mijoter.
Non, pas de mijoter, mais enfin de cracher leur sable, espérons.
Le
parce
sable
que
noir,
sinon, on mange des moules bien sablées. Elles sont très bonnes. Et donc voilà, en fait, ça nous donne un but, parce que marcher juste pour marcher, mais là, marcher pour aller avoir
ramasser
nos...
les moules.
Oui. C'est plus intéressant. Et puis ça nous on regrimpe, on fait une boucle, on regrimpe en s'accrochant au rocher, et après on arrive, on redescend sur la plage. Et oui, je voulais rappeler aux gens qu'on a cet endroit magnifique.
Mais prenez pas trop de moules, hein, parce qu'il faut qu'il en reste.
Donc, personne n'y va, on est toujours les seuls.
J'ai fait ça avec un copain chef il y a 3 ans. Exactement la même chose, la même balade.
À White Beach?
Et, oui, puis sur les rochers, ou sur le côté des rochers, ceux qui sont. Ben, c'était début marée basse, à droite.
Ouais.
Et on a ramassé les moules
aussi.
Et on s'est fait un barbecue. On avait ramené le gaz, la butte gaz. Et on s'est fait les moules sur la plage 5 minutes après. C'était une très belle journée. Il pleuvait, enfin, il crachinait ce jour-là, mais on a passé une très bonne journée.
Il faisait beau. Il y a même un monsieur que j'ai vu, c'est la troisième fois que je le vois, aux grandes dames des filles. Moi, ça ne m'a pas tellement choqué, mais qui fait du naturisme sur cette plage. Donc, il va tous les jours se baigner. Et alors, je te préviens, il n'a pas de
tous
marque.
Les jours, hein.
Il est, oui, je ne sais pas, il doit avoir 70 ans, 65 ans, et bien grand lui face. Et alors, il était dans l'eau, loin dans les vagues, mais. Je voyais bien que,
enfin, tout. S'il était loin, t'observais.
Je me disais, est-ce que c'est lui? Parce que les filles vont être surprises. Et ben, quand on s'est assis juste pas tout près de lui, effectivement, on a bien vu. Il fallait bien qu'il rentre jusqu'à sa serviette. Mm-hmm. Donc, Blondie.
Mais par la chaleur de l'eau, ça devait être petit quand même. Difficile à voir, hein. Il fait froid,
j'avais
là.
J'avais pas
en
les
moment.
Yeux braqués. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'est quelqu'un qui se sent bien et c'est un endroit. Je trouve que c'est vraiment l'endroit approprié. Bravo, monsieur, quoi. Donc, non, il se sentait bien et voilà. Ouais. Et après, ce que je voulais dire, c'est aller vous faire plaisir à White Beach.
Vous pouvez faire, pour les moules, vous pouvez faire ça. Je ne veux pas tout vous dire, mais sur Bessels, pareil, vers la fin de Bessels, il y a d'autres petites plages si vous continuez à monter les collines. Et pareil, vous
et
faire le coup
minutes,
des moules à Bessels. Dans 2 minutes, on se dit au revoir. Donc, merci Séverine d'être venue, de
J'aurais
parler
bien voulu
de l'Ouest.
Parler de Matariki, mais.
3 secondes.
Je veux parler rapidement. Je suis allée assister à une conférence il y a 3 semaines sur Matariki d'un astrologue maori qui s'appelle Rangi. Et je me rappelle plus bien son nom, mais Rangi, c'était prédestiné puisque ça veut dire le ciel. Ouais. Et il est fils et petit-fils de gens qui se passent cette tradition orale. Et maintenant, lui, il l'a écrit sur les étoiles et la cosmologie. On dit comme ça,
ouais.
Maori. Donc chaque étoile a un nom. pour les Maoris, et surtout une signification. Si on voit un ciel bien clair autour de cette constellation, ça veut dire que la pêche sera bonne ce mois-ci, ou il y aura des défunts dans notre tribu. Ou, voilà. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et il y a une richesse, un savoir, mais extraordinaire sur le ciel. D'accord. Voilà, donc ça me donne encore plus envie d'aller, tu vois, je vais rentrer,
peut-être une émission spéciale.
Oui, alors là, il y a un programme très très bien au Stardome aussi.
C'est ce que je pensais, oui.
Sarah, j'ai emmené mon petit-fils, c'était formidable.
D'accord, ouais. Merci.
Alors,
Elisabeth,
au Stardome,
merci Séverine, bonne soirée,
merci,
bonne nuit et bonne semaine à tout le monde. C'était Amuse-Gueule.
Amuse-Gueule, tous les dimanches soirs à 18h05 ou en ligne sur planetaudio.org.nz/amuse-gueule.
J'ai mis de la musique, mais ça passe pas.